Et c'est ce groupe-là qui a mis en place le Coran d'aujourd'hui, donc qui est composé de 114 sourates et de 6236 versets, avec un ordre étonnant pour nous, puisque c'est l'ordre de longueur décroissante et pas chronologique. On ne connaît pas les raisons de ce classement, mais si on en parle à des musulmans, ils nous disent tout ça a été fait sous le regard de Dieu, donc c'est sûr. On ne peut pas le remettre en question. Heureusement pour nous, des savants musulmans ont pu reconstituer l'ordre chronologique des sourates du Coran, si bien qu'on a des traductions où en tête de chaque sourate, il nous est dit sourate mécoise ou sourate médinoise. Vous voyez ? Comme ça, on peut dater. Mais certains savants aussi disent qu'à l'intérieur de chaque sourate, il y a des interpolations qu'on a introduites, mettons, dans une sourate mécoise, un verset médinois, et l'inverse aussi, dans une sourate médinoise, un verset mécois. Alors, ça complique bien les choses pour l'étude du Coran. Et puis, il y a un autre problème aussi qui se pose. Alors, attends, je vais reprendre un article que j'avais consacré à cette question-là. Il y a dans l'islam, dans le Coran, un verset où Dieu dit, je vais vous le dire, où Dieu se réserve le droit d'abroger tel ou tel verset antérieur. C'est dans la sourate 2, au verset 106. Dieu dit ceci: dès que nous abrogeons un verset, ou dès que nous le faisons oublier, nous le remplaçons par un autre, meilleur ou semblable. Étant entendu que l'abrogation ne concerne jamais le dogme, mais seulement des questions pratiques, la vie des musulmans. Alors, comment savoir si tel ou tel verset est considéré comme abrogeant ou abrogé? En principe, l'abrogeant, c'est le dernier qui abroge le précédent. Hein. Donc, il faut bien savoir de quelle période date tel ou tel verset. Est-ce que c'est de la Mecque ou de Médine? Et puis, alors, si un verset médinois, donc le plus récent, contredit un verset mécois, il est censé abroger le verset mécois. Mais comme il y a ces interpolations dans lesquelles on ne peut pas se retrouver, quand il y a des versets mécois dans les sourates médinoises et des versets médinois dans les sourates mécoises, je ne sais pas, hein, c'est ça, oui. donc on est face à un problème quasiment insoluble. Mais cela dit, une science a été forgée par les savants musulmans, la science de l'abrogeant abrogé. Alors, c'est très complexe, et en fait on a pu découvrir que cette science a pu changer selon les besoins de chaque époque. Selon les besoins de telle ou telle époque, les autorités musulmanes ont déclaré que tel verset est abrogé, et selon les autres périodes, c'est tel autre verset. Voyez, alors le problème qui se pose là, pour nous c'est important de savoir ça, c'est que les versets, qu'ils soient abrogeants ou abrogés, sont tous maintenus dans le Coran. En principe, un verset abrogé, il devrait avoir disparu du Coran, puisqu'il est abrogé, voyez, étant le plus ancien. Or, tous se retrouvent dans le Coran. Comment s'y retrouver? C'est un problème quasiment insoluble qui dépend aussi des interprétations de tel ou tel courant musulman. Alors, on aimerait bien que ce soit les versets de Médine qui soient abrogés et pas abrogeants, puisque donc, ce sont les derniers, mais ce sont les plus durs, notamment envers les juifs et les chrétiens. Voyez, à la Mecque, il n'y avait pas d'aspect législatif. À Médine, oui. Et pas n'importe quoi. Par exemple, un verset de Médine ordonne de couper la main et le pied du voleur. Voyez. Et celui-là, il est abrogeant. Donc, il est censé abroger des dispositions plus libérales. Voyez. Mais par ailleurs, il y a les versets mécois qui sont maintenus et qui sont donc plus libéraux, plus ouverts. Voilà. Alors, on est face à cette situation. C'est donc une difficulté considérable qui en découle pour savoir. On peut toucher à aucun des versets, ni les abrogeants ni les abrogés, puisque c'est tout parole de Dieu, et que le corpus coranique tel qu'il est aujourd'hui est considéré comme la dictée divine, immuable et intangible. comprenez la difficulté. Vous voulez me demander quelque chose à ce sujet?
Je comprends bien si c'est abrogé.
Comment?
Je comprends bien si c'est abrogé.
Ah, quelque chose qui est abrogé, c'est quelque chose qui n'est plus valide, qui doit disparaître en principe. Hein, je ne sais pas comment vous dire un exemple dans notre culture à nous. Comment? Oui, mais je cherchais un exemple. Oui, voilà. Mettons le Parlement, chez nous, décide d'abroger une loi parce qu'on la considère inadaptée au contexte actuel. Vous voyez? Alors, la loi est abrogée, elle disparaît du code. Voilà. Mais là, c'est impossible étant donné que tout est considéré comme parole de Dieu, matérialisé en un livre. Vous voyez? C'est compliqué le monde musulman. Hein. Oui. En tout cas, là, voilà, ça, c'est un vrai problème, ça. Alors, c'est pourquoi, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, tant que les autorités du monde musulman n'en finiront pas, ne remettront pas en cause le statut incréé du Coran, eh bien, il y aura ce fixisme, voyez, qui s'attache au rapport avec le livre saint des musulmans. Alors, de tout ce que je vous ai dit, vous voyez bien que l'islam est évidemment une religion du livre. Mais il y a quelque chose à ajouter. Le Coran qualifie les juifs et les chrétiens de gens du livre, les gens, G-E-N-S, du livre. Alors, l'expression a deux significations. La première, c'est que les juifs et les chrétiens sont appelés de telle façon parce qu'ils sont considérés comme détenteurs d'écritures révélées. Je le redis, la Torah pour les juifs, l'évangile pour les chrétiens. Ces écritures sont considérées comme falsifiées, d'où l'envoi du livre parfait, le Coran, mais n'empêche que du fait que les juifs et les chrétiens ont reçu des écritures qui venaient de Dieu, eh bien, on leur donne le nom de gens du livre. Alors, du point de vue chrétien, comme je l'ai dit au tout début, c'est une appellation inacceptable. Les chrétiens ne peuvent pas être définis de gens du livre. Les chrétiens sont les disciples d'une personne vivante et non pas d'un livre. Le christianisme a des livres, les livres de la Bible. C'est très important, le chrétien a des livres, c'est normal, mais il n'est pas la religion du livre. Le christianisme, c'est vraiment la religion de Jésus-Christ, personne vivante. Vous voyez, dans ce genre de comparaison, les prépositions, « a », « de » ont beaucoup d'importance. Alors, je vous renvoie au catéchisme de l'Église catholique, qui donne cette définition très belle d'ailleurs. La foi chrétienne n'est pas une religion du livre. Le christianisme est la religion de la parole de Dieu, non d'un verbe écrit et muet, mais du verbe incarné et vivant. C'est au numéro 108 du catéchisme de l'Église catholique. Cette définition est reprise de Saint Bernard. Voilà tout ce que j'avais prévu de vous dire à ce sujet. Je regarde si j'ai autre chose. Ça, c'est pour après. Voilà, est-ce qu'il y a des...